Romain Malé-Jacques, bonjour.
Bonjour.
Dans Warlord Survival, vous avez entrepris de percer les secrets de la longévité de quatre seigneurs de guerre afghans. Essayez de comprendre comment ils ont réussi à survivre à tous les changements de régime qu'a connu leur pays, l'Afghanistan, et quelles ont été les incidences sur la construction de l'État afghan. Et c'est d'ailleurs une question centrale dans votre livre. Les seigneurs de guerre sont-ils responsables de la déliquescence d'un État ou bien est-ce au contraire un État qui s'affaiblit, qui engendre l'apparition des seigneurs de guerre? Cette question oppose les chercheurs. Quel est votre point de vue?
Oui, effectivement, c'est une question qui est importante puisqu'il est difficile de déconnecter l'effondrement de l'État de la question des seigneurs de guerre. Donc c'est un peu la poule et l'œuf, si vous voulez. Mais selon moi, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'il ne peut pas y avoir l'émergence de seigneurs de guerre sans affaiblissement de l'État préalable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'émergence de seigneurs de guerre quand on a des institutions qui sont fortes, quand on a un État qui a le monopole de la violence. Et donc, pour avoir l'émergence des acteurs qui sont enclins à devenir des seigneurs de guerre ou qui ont l'opportunité de le devenir, il faut un environnement qui soit propice, et donc un environnement de guerre civile. En revanche, une fois qu'on a des seigneurs de guerre qui commencent à émerger, à s'affirmer, effectivement, leur émancipation, à partir du moment où ils deviennent autonomes de l'État, va achever ce processus d'effondrement de l'État.
Alors, avant de comprendre comment ils peuvent survivre, vous avez essayé de déterminer sur quoi reposait leur pouvoir, leur légitimité.
Oui, leur légitimité, elle est avant tout, et peut-être que c'est un peu évident de le dire comme ça, mais elle repose avant tout sur leur capacité à faire la guerre. Ce sont des acteurs qui se sont imposés par la guerre, dans la guerre, et donc c'est une légitimité qui repose sur leur capacité à faire la guerre, à diriger les hommes, à gouverner dans la guerre, et c'est par la suite qu'ils vont pouvoir décliner d'autres types de légitimité, qu'elles soient politique, idéologique, ethnique même ou encore religieuse.
Il y a toute la notion de protection d'une communauté. Représenter une communauté, c'est aussi important pour asseoir leur pouvoir.
Oui, effectivement, ça fait partie de leur type de légitimité, de leurs assises sociales en quelque sorte. Et c'est grâce à ce pouvoir de représentation, si vous voulez, à cette légitimité locale, qui vont pouvoir s'affirmer auprès d'autres acteurs.
Vous écrivez que la légitimité politique réelle ou perçue est la clé de la capacité d'un chef de guerre à maintenir son pouvoir. En quoi est-ce une clé?
C'est une clé dans la mesure où, si je devais le résumer en quelques mots, leur capacité à survivre à différents régimes politiques, à différentes crises même politiques, à différents environnements, repose sur leur capacité à se rendre indispensable. Donc ça repose sur leur capacité à se rendre indispensable parce qu'ils ont la capacité de fournir un certain nombre de services à différents types d'acteurs, mais aussi parce qu'ils ont une capacité de nuisance qui est importante. Et donc cette capacité à se rendre indispensable à différents niveaux, au niveau local auprès des communautés qui les soutiennent, soit au niveau national auprès des élites politiques, ou même au niveau international auprès de certains acteurs internationaux. Et donc les seigneurs de guerre, par leur légitimité politique, ont la capacité de fournir un certain nombre de services, ont également une capacité de nuisance de par les soutiens qu'ils ont, les soutiens locaux qu'ils ont dans leur fief. Et c'est la capacité de naviguer entre ces différents échelons politiques grâce à cette légitimité qui va leur permettre de surmonter les crises.
Est-ce que Dostum, qui est finalement choisi pour être le vice-président, Achraf Ghani, le choisit comme colistier, est-ce que ça, c'est une illustration de ce que vous venez d'expliquer?
Oui, tout à fait. Le général Dostum, qui est maintenant, dans les semaines passées, devenu maréchal Dostum, est un très bon exemple, puisqu'il était dénoncé par Achraf Ghani lui-même comme un seigneur de guerre sans pitié, avide, cupide et violent. Et quand il a eu besoin de lui en 2014 pour se faire élire, il l'a choisi comme colistier, puisque le maréchal Dostum a une légitimité locale et donc il a la capacité de fournir un certain nombre de voix lors de l'élection.
Ces voix, c'était la communauté ouzbek qui était indispensable dans ce scrutin.
Oui, la communauté ouzbek et dans une moindre mesure la communauté turkmène. Donc, d'une manière générale, la communauté de souche turque, une des communautés les plus importantes en Afghanistan.
Alors justement, dans ce que vous pouvez décrire autour de ces quatre chefs, donc Dostum, vous parlez aussi de Ahmed Shah Massoud et de son successeur Fahim, ainsi que de Ismaël Khan. Par exemple, dans les stratégies de survie complexes, vous parlez des relations qu'ils peuvent entretenir avec l'international. Ce qui est assez étonnant, c'est que parfois ce sont finalement des potentats locaux, mais dans le même temps, dans leur stratégie de survie, ils ont développé une diplomatie internationale avec des représentants à l'étranger. Ce fut notamment une des légitimités développées par Ahmed Shah Massoud.
Oui, tout à fait. Ces seigneurs de guerre ont acquis un certain nombre de soutiens à l'étranger pendant la guerre des années 80, qu'ils ont donc aidés dans leur effort de guerre. Et par la suite, comme ils se sont émancipés de l'État, ils ont réellement dirigé des sortes de mini-États. Et donc, dans le cadre de ces mini-États, ils ont pu développer une activité diplomatique. Alors, le cas de Massoud est un petit peu particulier, puisque dans les années 90, il faisait partie des représentants de l'État. Il avait le pouvoir à Kaboul. Et donc, même quand les talibans sont emparés de Kaboul, il est resté en tant que ministre de la Défense officiel de l'Afghanistan. Et il a continué à avoir des relations diplomatiques, notamment avec la France, ou avec le Royaume-Uni, ou avec même l'Union européenne, puisqu'il a livré un discours devant le Parlement européen.
Mais ces relations avec l'international peuvent court-circuiter la diplomatie propre de l'État afghan.
Oui, c'est toujours le cas. Si on prend l'exemple du général Dostum dont on parlait tout à l'heure, on voit que quand il a eu des problèmes à Kaboul, il devait passer devant la justice pour avoir maltraité un de ses opposants politiques, le moins qu'on puisse dire, et la Turquie est intervenue auprès du président Karzai et auprès des Nations Unies pour protéger le général Dostum, en menaçant de retirer leurs troupes, en menaçant d'arrêter leur projet de reconstruction si le général Dostum devait être jugé. Et donc, ils ont accueilli le général Dostum en exil en Turquie, par exemple.
Vous qualifiez ces chefs de guerre d'entrepreneurs politiques astucieux.
Oui, tout à fait, puisqu'on a tendance à considérer les seigneurs de guerre uniquement sous un prisme normatif qui consiste à dénoncer les seigneurs de guerre comme des acteurs violents et donc qui sont peu enclins à respecter les droits de l'homme, qui profitent du système. Et dans le livre, j'essaie d'adopter une approche qui est plus sociologique et donc de regarder leur trajectoire politique, de regarder leur stratégie politique, de m'intéresser à leurs assises sociales, à leur légitimité, qui, à mon avis, est une approche qui est plus fructueuse, qui est plus intéressante, parce qu'elle permet réellement d'analyser le rôle et la place des seigneurs de guerre dans leur environnement politique.
Une légitimité dont on n'a pas parlé. On a parlé de leur rôle de chef de guerre, mais il y a eu, pour la plupart d'entre eux, sauf Dostum, l'importance de leur passé de Mujahideen. Et lors d'une rencontre que vous avez avec Ismaël Khan, il vous pointe le fait que vous n'avez pas cité le musée du djihad qu'il a mis en place dans sa ville. Et ça montre bien toute l'importance qu'il accorde à ce passé dans sa légitimité actuelle.
Oui, tout à fait. Vous faites référence à un des épisodes marquants de mon étude de terrain. Et il m'a demandé quel était mon endroit préféré dans Herat. Et j'ai répondu que c'était la mosquée, à tort, puisque la mosquée, l'imam de cette mosquée est un de ses rivaux principaux dans sa région. Et la raison pour laquelle ce musée est si important, c'est qu'il a construit ce musée, à sa gloire en réalité, pour montrer aux habitants de Herat à quel point il a été important dans ce djihad, puisqu'on connaît l'importance du djihad en Afghanistan dans les années 80 contre l'Union soviétique. Mais le djihad, en réalité, représente également la capacité de défendre la population dans le futur. Ce n'est pas seulement à des fins historiques. C'est aussi pour montrer que Ismaël Khan a été leur protecteur, a été ce leader, et qu'il est capable d'être à nouveau leader s'il y avait besoin.
Je termine avec ce dernier point. La plupart des seigneurs de guerre afghans n'apprécient pas, vous écrivez, qu'on les appelle seigneurs de guerre. Alors justement, une seule exception, Dostum, qui dit qu'il, lorsqu'il était nécessaire d'être un seigneur de guerre, il l'a été, mais qu'il se voit maintenant en seigneur de la paix.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose d'assez intéressant chez le maréchal Dostum, puisqu'il a même, à vrai dire, engagé quelqu'un dont la mission était de se débarrasser, si vous voulez, de ce label de seigneur de guerre. Mais le fait qu'ils ont fait la guerre et que leur légitimité vient de cette capacité à faire la guerre n'a jamais été contestée par ces seigneurs de guerre. Donc effectivement, le label lui-même est contesté, d'autant plus qu'il a une connotation qui est encore plus péjorative en Dari. Et donc, ils essaient de montrer à quel point ils sont des seigneurs de paix aujourd'hui. En même temps, depuis que les troupes américaines ont considérablement réduit leur effectif en Afghanistan, le maréchal Dostum a repris un rôle militaire. Il a cherché à montrer qu'il serait capable de vaincre les talibans dans le nord de l'Afghanistan. Donc on voit que cette légitimité est toujours au cœur de leur pouvoir. Et c'est pour ça qu'il a insisté pour devenir maréchal en Afghanistan dans les négociations qui viennent d'avoir lieu.
À partir du moment où l'évolution sur le terrain fait que la sécurité redevient un enjeu, l'aspect légitimité militaire revient.
Exactement. Ce que je cherche à montrer notamment dans le livre, c'est que les seigneurs de guerre s'adaptent à l'environnement. Donc après 2001, quand il n'est plus possible d'exercer leur pouvoir militairement, ils investissent dans d'autres sources de pouvoir, dans d'autres types de pouvoir, économiques, politiques, etc. À partir du moment où la question militaire redevient centrale, et donc à partir du moment où les Américains s'apprêtent à partir, à quitter l'Afghanistan, ils vont de nouveau réinvestir dans ces types de pouvoir de sources militaires. Et c'est quelque chose qu'on a vu ces dernières années, même depuis 2014, on voit que les seigneurs de guerre ont commencé à remobiliser leurs hommes, ont commencé à se réarmer. Et donc, ils ne cessent réellement jamais d'être des seigneurs de guerre. Ils s'adaptent juste à l'environnement politique qui est le leur.
Merci Romain Maléjac.
Merci.